combien il y avait de personnes dans le camp humain.
Bah, alors.
Combien vous participez, en gros, combien de. En gros, c'est une action massive populaire. Et combien de personnes ont constitué cette action massive et populaire?
Je réponds tout de suite ou... Mais au total, on a compté que presque 1000 personnes sont venues sur le... Parce que du coup, c'était 6 jours d'action et peu de personnes sont venues les 6 jours, en fait. Il y a des gens qui sont venus que pour le camp, pour aider, d'autres qui sont venus que pour un seul jour. Et donc, au total, ça faisait presque 1000 personnes qui avaient contribué d'une façon ou d'une autre à la tenue de cette action non violente. La méthode, on la tient pas mal, notamment, en tout cas, la méthode d'organisation de l'action non violente, on la tient notamment de la méthode d'organisation d'action non violente plus petite, mais du coup, qu'on a un peu fait agrandir. La méthodologie générale, c'est un peu la méthodologie d'Alternatiba. Et après, en source d'inspiration, notamment de lecture, il y a Joyeux Bordel qui est assez intéressant sur différentes formes d'action à aller chercher. Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, petit et sans armes. Donc là, c'est plutôt sur la stratégie non violente globale. Et après, sur l'action de masse, ça a été quand même une grosse expérimentation pour nous parce que la plupart des cohortes, on n'avait jamais notre vie. On découvrait, beaucoup d'entre nous avaient découvert l'action non violente un an avant. Donc on était un peu des poussins de l'action non violente, quoi. Mais on a, avec des gens expérimentés derrière, bien sûr, mais ça a été une grosse expérimentation qui a plutôt bien réussi, mais on sait qu'on a plein de trucs à parfaire et que du coup, c'est une méthode qui va évoluer avec le temps, évoluer selon les cibles. Et voilà. Ah, d'accord. Alors, sur le camp climat, du coup, il y avait des entretiens personnalisés. Donc, quand on arrivait, on avait donc un entretien avec deux personnes qui étaient en posant des questions qui permettaient du coup d'évaluer si cette et aider aussi à que la personne s'auto-évalue sur sa place qu'elle pouvait prendre dans l'action selon son niveau d'engagement. Et puis après, c'était les personnes qui étaient prêtes à aller au charbon en quelque sorte. Et dans tous les cas, les risques juridiques étaient exposés dans le briefing général. Les gens qui souhaitaient vraiment pas prendre de risques juridiques, du coup, on leur conseillait de pas venir du tout sur l'action et du coup de rester en base arrière sur le camp climat, qui est une place aussi ultra importante pour la réussite d'une action. Parce que, par exemple, quand on fait un blocage d'une journée et qu'il y a personne en cuisine, il y a un problème. Donc ça c'est un point. Et puis donc il y avait ces niveaux d'engagement. Et puis du coup, selon les niveaux d'engagement des personnes, elles se mettaient plus ou moins devant dans le bloc de personnes qui avancer vers le Palais Beaumont. Peut-être tu veux compléter ?
Non.
Ou une question ? Mais vas-y, expose-le, Élise. Non, mais du coup, par exemple, le dernier jour, avant de partir, en fait, c'était au moment, à la fin du sommet, on a fait du coup un daïn géant. Donc un daïn, c'est une mise en scène, en fait, de gens qui s'allongent par terre et pour symboliser, en fait, le danger qu'il y a pour l'humanité, le danger que représente le réchauffement climatique pour l'humanité. Donc il y a eu ce daïn organisé donc avec plusieurs sirènes, vraiment quelque chose de très théâtralisé et qui dans les vidéos rend très très bien. D'ailleurs, je vous conseille de regarder les trois vidéos du sommet de Pau, le jour 1, jour 2, jour 3, qui sont sur YouTube, sur la chaîne d'ANV COP21. Et puis ça aide vraiment à se rendre compte, je voulais les montrer ce soir, ça aide vraiment à se rendre compte de ce que ça a pu être cette action de désobéissance civile en fait. Et après, pour revenir sur les niveaux d'engagement, en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes qui disaient pendant les entretiens ne pas vouloir forcément être en première ligne, etc., dans le feu de l'action et dans la... quand elles avaient confiance dans les gens autour d'elles, et bien en fait, c'était des fois les personnes qu'on retrouvait devant, quoi. Et du coup, c'était assez marrant de voir comment, dans l'espace d'une action, les gens peuvent, du coup, que la peur s'évanouisse et que quand elles se sentent en confiance dans un cadre non violent, et ben en fait, elles soient à l'avant et que, du coup, elles changent dans l'action leur, leur niveau d'engagement. Il y a eu des retours bilatéraux quand on discutait avec les gens, mais il n'y a eu aucune prise de position publique après le sommet.
C'est un peu la même question, c'est savoir si ça avait eu un vrai impact sur la, la manifestation, les choses qui se sont dites, etc.
Je pense que ça a eu un impact dans, vraiment dans la tête des congrès, enfin des gens qui assistaient au congrès. Parce que c'était la première fois qu'ils étaient vraiment confrontés en fait, à ce discours. D'habitude, ils l'entendent, les militants climatiques, blablabla. Mais là, ils y étaient confrontés et ils entraient directement en dialogue avec nous. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu aussi, bon, on n'en est pas sûr, mais il y a eu aussi un impact politique à cette mobilisation. C'est que quelques jours après, Ségolène Royal a annoncé un moratoire sur la Méditerranée, c'est-à-dire que, en gros, c'est l'idée d'interdire toute exploitation d'hydrocarbures offshore en Méditerranée, enfin, en tout cas, côté français, quoi. Après, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a eu aussi toute une négociation avec Total, qui était hôte du sommet, en fait, et qui, du coup, quand on l'a annoncé publiquement, ont demandé un rendez-vous avec nous pour essayer de nous faire annuler les trucs. Mais en fait, durant le rendez-vous, il s'est avéré que tous leurs engagements n'étaient pas du tout des engagements. Et du coup, on a dit il est hors de question qu'on annule la mobilisation. Et en plus de ça, ils nous ont avancé pendant le rendez-vous que Total était propre, parce que eux, ils exploitaient, ils exploitaient aucun hydrocarbure dans l'Arctique. Et en fait, on a eu des infos entre-temps qui nous ont confirmé que, à travers une filiale, en fait, ils exploitaient du pétrole en Arctique, qu'on a dénoncé du coup pendant le sommet. Mais voilà, c'est aussi le genre de discussion qu'on a eu avec, enfin, de discussions plus ou moins lointaines, mais qu'on a eu avec l'industrie fossile.
Quand dit, après accepté.
Au mois de novembre, il y a eu la COP22 à Marrakech. Comment est-ce que vous avez appréhendé cette question, d'autant que les médias n'ont pas du tout parlé avec le phénomène Trump?
On n'a pas vocation à se mobiliser à chaque COP. Après, là, on était présents à la COP22 à travers... ANV COP21 a soutenu, mais disons que Alternativa était présent à la COP22 à travers l'Odyssée des Alternatives, qui était en fait une odyssée en voilier qui traversait la Méditerranée, qui faisait différentes étapes pour aller rencontrer les mouvements de résistance et qui prenait des alternatives aussi dans les pays de la Méditerranée avant d'aller à la COP22. Et donc, à travers, on va dire, cette initiative, on était présents en la soutenant, etc., mais on n'a pas vocation à aller à chaque COP mener des actions non violentes, etc., etc. Là, il y avait la COP21 qui était un peu l'opportunité parce que c'était à Paris, puis il y avait l'enjeu politique, mais on n'a pas vocation à se caler sur le calendrier politique. Là, vraiment, la ligne politique qu'on a, c'est les pays ont signé l'accord de Paris, ils se sont engagés en signant cet accord à mettre tout en œuvre pour rester sous la barre des 2 degrés, voire des 1,5 degrés. Aujourd'hui, les mécanismes qui sont faits, enfin, les mécanismes pour respecter cet engagement ne sont pas là. Il n'y a aucun acte concret. Et nous, du coup, on reprend en main cette question et on va tout faire pour qu'ils respectent cet engagement. Non, il n'y a eu aucune retombée juridique, il n'y a eu aucune garde à vue. Il y a eu juste des arrestations minimes de quelques heures, mais les activistes ont été relâchés tout de suite. Il y a encore une question. C'est une... Non, disons que là, c'était l'enjeu de... Je pense que ça permet de se sentir protégé d'une certaine façon et du coup d'être de faire corps avec les différentes personnes autour de soi quand on est un espèce de petit cortège. Mais de toute façon, ça permet de se protéger des coups de matraque, mais ça permet pas du tout de se protéger contre les gaz. Et de toute façon, on savait très bien qu'en allant à la confrontation policière, certes de manière non violente et sans du coup les agresser, dans tous les cas, on allait recevoir qu'il allait avoir une réaction de la part des forces de police, quoi.